Scarlatti au fil des jours. Les 555 sonates d'un grand maître du clavecin par Philippe Frétigny.
Toujours suivant le principe du dictionnaire amoureux, aujourd'hui la lettre N comme Naples. Dès le XVIIe siècle, Naples faisait partie de ce qu'on appelait le Grand Tour. L'aristocratie européenne cultivée de l'époque se devait de voyager en France, en Allemagne et en Italie. Naples était une étape phare de ce Grand Tour. Il ne s'agissait pas de tourisme comme ce que l'on connaît hélas aujourd'hui. On s'arrêtait un certain temps dans chaque ville, parfois on y séjournait longuement, et l'on participait à la vie mondaine de la cité en rencontrant les acteurs locaux de celle-ci, notamment les musiciens, et l'on assistait aux concerts que ceux-ci donnaient. Il faut s'imaginer le choc ressenti par ces visiteurs nordiques lorsqu'ils découvraient la ville non seulement avec ses grandes rues bordées d'hôtels particuliers, les théâtres, les nombreuses églises baroques somptueusement décorées, mais aussi les rues étroites, bruyantes, débordant de vie, de désordre où l'on vivait dehors. Une ville où la population est aussi incandescente que les Vésuves que l'on voit de l'autre côté de la baie. En cette fin du XVIIIe, Naples est la ville la plus peuplée et la plus importante de la péninsule italienne. C'est la ville baroque par excellence, avec ses nombreux palais, ses quelques 400 églises, ses rues escarpées qui se lancent à l'assaut des gradins de l'amphithéâtre que forme la cité autour de la baie. Le passé est riche en ces lieux de la Grande Grèce, de la période romaine, qui fit de la compagnie une sorte de paradis. Ce furent ensuite les Byzantins, puis les Normands, qui poussèrent jusqu'à cette région, jusqu'aux Espagnols et même Charles VIII, le roi de France, qui l'assaillirent, pour ne pas parler des Aragonais qui suivirent. Comment autant d'apports, d'invasions, n'auraient-ils pas laissé une ville à la culture aussi riche et féconde ? Au XVIIIe siècle, la ville attire d'autant plus les visiteurs que l'on commence à découvrir les sites de Pompéi et d'Herculanum. Vers la fin du siècle, un certain Winckelmann, qui travaillait alors au Vatican à Rome, se rendra sur place. Il est en quelque sorte le fondateur de l'archéologie moderne. Mais ceci était une autre histoire sur laquelle nous reviendrons. Naples est encore aujourd'hui cette ville qu'elle fut toujours. Mais pour combien de temps ? Elle n'a pas encore été affadie, galvaudée par la globalisation et cette soi-disant culture mainstream qui transforme le monde en une morne plaine où les legs culturels de nos devanciers sont ignorés, bafoués. Les ravages de la spéculation foncière la plus cupide qui ont déjà assassiné tant de villes n'ont pas encore détruit le centre-ville ni chassé les classes populaires qui sont l'histoire et le sel des cités. Que valent les villes sans les peuples qui les ont constituées ? Il faut aller à Naples pour comprendre à quel point elle fut aimée des visiteurs du Grand Tour et des très nombreux écrivains auxquels elle inspira des pages amoureuses. On pense notamment à Stendhal qui la visita en 1817. Aujourd'hui, nous écoutons la sonate numéro 16, Presto en si bémol majeur.